À l'occasion de ce week-end du 1er mai 2021 et de sa programmation spéciale Livre d'expression populaire et critique sociale, Radio PFM a le plaisir d'accueillir Camille Zabka, autrice de L'Arrache-Joie, qui nous emmène au bout du monde, en Indonésie, peut-être pour mieux en revenir d'ailleurs, hein, nous verrons cela, avec son livre Ne crains pas l'ombre ni les chiens errants, publié aux éditions L'Iconoclaste. Camille Zabka, bonjour.
Bonjour.
Alors pour cette rencontre, je suis accompagné par Johanna Finance, ex-libraire de la grande librairie d'Arras et future libraire ambulante, qui avait notamment organisé une rencontre avec Camille Zabka à l'occasion de la sortie de son premier livre, Celle qui attend, il y a à peu près 2 ans, Johanna. Oui. Voilà, alors donc merci de m'accompagner pour cette rencontre. Bonjour, Johanna.
Bonjour. Voilà.
Alors Guy, au micro, et Johanna, je te laisse présenter notre invité et puis débuter cet entretien.
Mmh. Alors bonjour Camille. Alors nous on se connaît en effet parce que tu étais venue il y a 2 ans présenter ton premier roman qui s'appelait Celle qui attend, qui était aussi édité à l'Iconoclaste. Donc on avait fait une rencontre, on avait eu pas mal de monde pour discuter du roman qui parlait plutôt du milieu carcéral et l'histoire d'un papa qui était incarcéré pendant 107 jours et qui a survécu grâce aux lettres qu'il écrivait à sa petite fille et à sa femme Pénélope, 52 lettres. Donc on avait découvert de toi cette écriture très sensible avec beaucoup de pudeur. Moi j'en avais pleuré en lisant ce premier roman. Un roman sur la paternité et sur la filiation. Et on peut faire la transition avec ce second roman, puisque dans ton nouveau livre, Ne crains pas l'ombre ni les chiens errants, il est question ici de maternité et de filiation aussi. Donc voilà, moi je pense qu'on peut aborder ce second roman par ce biais-là. Peux-tu nous parler de l'histoire de cette maman qui vit à Java, en Indonésie ?
Oui, donc « Ne crains pas l'ombre ni les chiens errants », ça raconte l'histoire de Cassandre. Cassandre qu'on voit fuir dès les premières pages du roman avec son enfant, sa fille qui a quelques mois, elle a 8 mois hein, dans les bras. Et puis on va la suivre dans sa fuite et découvrir peu à peu les raisons de ce départ, de cette cavale. On la voit traverser la forêt et puis tenter de rejoindre l'aéroport de Jakarta. Et par flashback, par retour en arrière, on va comprendre les raisons proches de ce départ. Donc son arrivée en tant qu'expatriée sur l'île de Java. Et puis peu à peu se recompose aussi son passé plus ancien, son enfance dans les Hauts-de-France. Et finalement, avec cette fuite, elle va renouer avec celle qu'elle était beaucoup plus jeune et se réconcilier en quelque sorte avec l'enfant et la jeune femme qu'elle a été et à laquelle elle avait un peu renoncé.
Dans les Hauts-de-France, on peut être plus précis, Camille,
oui,
puisque c'est dans l'Arrache-Joie, c'est dans le Pas-de-Calais et dans l'Arrache-Joie.
C'est dans le Pas-de-Calais, c'est le petit village d'Étrun. Je ne l'ai pas nommé comme ça dans le texte, mais je me souviens plus.
Tu parles beaucoup
exactement.
De Mont-Saint-Éloi.
Voilà,
de
ça, en tout cas, ça se passe autour du Gy. Il y a la Scarpe, effectivement, des paysages qui, moi, me sont très familiers, puisque c'est là où j'ai grandi.
Et justement, on en parlait avec Guy un petit peu en aparté. Est-ce qu'il y a, contrairement au premier roman où c'était vraiment un roman sur le milieu carcéral, là, on sent qu'il y a quand même un peu de toi dans le livre. Alors, tu dois jouer forcément avec ça, hein, avec des choses qui te sont très proches. C'était une volonté de ta part d'insérer comme ça des endroits, du vécu aussi, puisque tu as été professeur là-bas.
Oui, alors c'était pas du tout une volonté au départ. Moi, je suis partie d'images avant pour commencer à écrire ce texte. J'avais très envie de raconter le paysage javanais, le désir de voyage. Alors effectivement, moi, j'ai passé 2 années au lycée français de Jakarta. Mais ce roman, pendant assez longtemps, il a été écrit à la 3e personne. Et il racontait, voilà, j'ai mêlé des histoires qu'on m'avait racontées sur place, et notamment cette femme qui décide voilà, de vivre une relation avec un local et puis qui décide de fuir. Et puis, peu à peu, mon éditrice, elle a commencé à me travailler un petit peu et à me dire, là, je pense que tu pourrais quand même essayer de développer un petit peu plus sur ce personnage de Cassandre. Elle reste assez floue. On était vraiment assez proche de la fin de l'écriture du livre. Et donc, j'ai tout réécrit en passant à la première personne. Et c'est là qu'ont commencé à surgir toutes ces scènes où on la voit enfant, où on la voit jeune adolescente. Et là, effectivement, j'ai donné du corps à ce personnage en puisant dans des choses qui ont été assez intimes et qui, de loin, mais quand même qui font écho à une, voilà, à des éléments qui sont un peu autobiographiques, effectivement. Mmh.
Et le titre, on en parlait tout à l'heure, pourquoi ce titre-là ?
Alors, le titre, ça est, bon, on a beaucoup cherché avec les éditeurs, un peu comme sur le premier livre. Et puis, finalement, alors, moi, j'avais envie d'un titre autour de la question de l'ombre, parce que, voilà, il y a un texte qui m'avait beaucoup accompagnée pendant que j'étais expatriée en Asie, c'était L'éloge de l'ombre de Tanizaki. Et finalement, en relisant les premières pages du roman, mon éditrice, elle a pris cette phrase qui est dans une berceuse que le personnage principal chante à sa fille quand elle fuit pour la calmer et pour se calmer elle aussi. Et donc, voilà, on a trouvé cette citation qui intervient dès les premières pages du roman.
Alors, il y a plusieurs thématiques, hein, Johanna, dans ce livre. Les questions d'environnement, d'écologie, le parcours de vie de femmes qui se croisent, des femmes d'ici et puis des femmes de là-bas. On va y revenir. Mais là, bon, on a commencé à évoquer un autre aspect, c'est l'aspect expatrié, enfin, c'est-à-dire des personnes qui vont travailler dans des pays pour représenter des compagnies, hein, des structures qui ont parfois des missions donc on peut juger assez critiquable. Et donc là, vous avez ce vécu, et on sent très bien, et surtout dans un pays comme l'Indonésie, en fin de compte, ces personnes, ces expatriés, elles se retrouvent entre elles, quoi. Il y a très peu de communication avec la réalité du pays.
Oui. Alors, moi, j'ai vécu l'expatriation en vivant dans une grande ville, hein, à Jakarta, mais j'ai entendu parler de ces complexes en pleine forêt, en pleine nature. Alors, c'est surtout sur Kalimantan, donc l'île, la partie indonésienne, hein, de l'île de Bornéo, où ça existe réellement. Donc, c'est les entreprises, hein, comme Total qui construisent des camps d'expatriés avec toutes les commodités possibles, des écoles pour les enfants, etc. Et donc, j'avais envie, un petit peu comme dans le premier livre, ça se passe dans un milieu très clos où on regarde les personnages vivre ensemble et on voit comment ils se comportent en étant enfermés. Là, il y avait cette envie de raconter cet entre-soi très malsain, finalement, puisque c'est une façon très particulière d'habiter le monde et d'aller s'approprier une partie du monde et de reproduire de manière assez catastrophique, hein, des schémas qu'on peut trouver en métropole. Là-bas, il y a une sorte, comme on est loin du regard des proches, de la famille, moi j'ai constaté qu'il y avait des attitudes vraiment coloniales, hein, je ne dirais pas néocoloniales, c'était vraiment des attitudes coloniales qui se développaient, une sorte de domination sur le monde, sur la nature, sur les autochtones, une façon de s'approprier des façons de fonctionner locales, mais de les pervertir, hein, cette façon qu'ils avaient d'embaucher le personnel de maison et de...
Donc les
Pembantous.
Voilà, hein. C'est ça. On peut le dire. Donc Camille et son mari arrivent.
Cassandre,
oui. Camille, c'est l'auteur. lapsus révélateur, mais à 50%, on l'a dit. Il y a de vous dans ce livre et pas que. Et donc Cassandre et son mari Lucas arrivent et sont accueillis dans la maison déjà par les deux Pembantous, une cuisinière et puis un gardien. Il y a une relation très particulière. il y a une scène où vous expliquez que Cassandre et Camille et Lucas avaient décidé de payer ces personnels de maison, quoi, en fin de compte, hein, de manière assez d'une manière assez élevée par rapport à ce qui se fait d'une manière générale. Et très vite, une voisine est venue les voir pour leur dire attention, il faut surtout pas les payer à ce niveau-là. On les paye, je sais plus, 200 euros par mois, pas 300, parce que après ça
vous
va faire
déséquilibrer le marché. Voilà.
Et donc ça, vous l'avez vécu?
Oui, ça c'est des choses que j'avais envie de raconter parce que c'est tellement particulier quand on assiste à ça, la scène où la voisine de Cassandre demande à son gardien de lui ouvrir la porte quand elle arrive à pied parce qu'elle veut que la porte s'ouvre devant elle. C'est des petits événements que j'avais consignés dans des carnets et je m'étais dit que j'avais envie d'exploiter ça dans un livre un jour et de raconter ce que l'homme blanc fait à l'étranger loin de chez lui en tant qu'expatrié. Parce que quand on est riche, on est expatrié, on n'est pas immigré. Et on sait qu'on est vraiment de passage dans un pays. Et donc, y a vraiment une libération des mauvais penchants.
C'est difficile de faire changer ça, en fait, de changer l'ordre des choses, puisque c'est établi comme ça depuis des années. C'est compliqué.
Oui,
en fait.
C'est compliqué et ça rend très problématique, moi, je trouve, cette question de l'expatriation. Déjà, la question du voyage, du tourisme est une question problématique. Enfin, moi, j'en suis vraiment revenue. Je l'ai beaucoup pratiqué, mais c'était aussi une manière de questionner ce besoin et cette façon qu'on a d'aller voir le monde, comment on se comporte quand on va voir le monde. Comment ça transforme aussi le monde, c'est-à-dire que toutes les villes, tous les aéroports finissent par se ressembler parce que ça doit correspondre à une certaine idée du voyage, à certaines attentes des Occidentaux. Et l'expatriation, c'est encore le niveau d'au-dessus, l'expatriation dans ces pays-là. Et puis, il y a vraiment l'idée s'expatrier dans ces pays-là, c'est, pour les expatriés, c'est une sorte de sacrifice. Donc, en retour, il faut quand même que la vie sur place, elle soit luxueuse,
agréable, confortable.
Agréable, qu'ils aient pas à ouvrir la porte de leur garage quand ils rentrent chez eux à pied.
On a aussi le sentiment que la population autochtone, tout au moins une partie, attend aussi ce comportement. Et c'est-à-dire qu'un expatrié qui n'aurait pas recours à ce personnel de maison, il pourrait être perçu peut-être de manière négative par la population locale.
Oui, effectivement. Après, c'est aussi une économie locale, surtout dans ces complexes-là, qui va reposer sur la présence des expatriés. L'idée, c'était de montrer aussi qu'il peut y avoir d'autres relations qui se nouent. Après, Cassandre et Lucas restent des expatriés, ils ont du personnel de maison, ils sont dans une attitude qui est aussi très ambiguë par rapport à ça.
Bon, il va y avoir une transgression, on va en reparler bientôt. Il y avait aussi une thématique en lien avec ça, Johanna, on en parlait sur les questions environnementales, écologiques, puisque, en fin de compte, Cassandre suit son mari qui travaille pour une compagnie qui exploite la forêt locale.
Oui, moi, on ressent aussi cette volonté de pointer un peu ce que fait l'homme sur la nature avec ce désastre écologique, l'huile de palme, etc., les forêts qui s'embrasent. C'était une volonté aussi de parler de ça.
Oui, bien sûr, c'était une volonté parce que ça aussi, c'est très perceptible. Alors, c'est perceptible partout. Je n'ai surtout pas écrit ce livre pour pointer du doigt les Indonésiens et leur rapport à l'environnement. Et justement, je voulais montrer que le désastre auquel Cassandre assiste, il est causé par l'exploitation d'huile de palme de la compagnie occidentale. Mais c'est vrai que c'est parti d'images aussi, c'est-à-dire que déjà les images que j'avais envie de raconter de paysages, elles étaient très marquantes parce qu'on est dans des images de forêts humides, de volcans, de rizières, et viennent très vite se superposer à ce paysage idyllique des images bouleversantes de marées de plastique. de forêts qui brûlent, de maisons où on doit recouvrir les meubles de grands draps parce qu'il y a de la poussière partout qui s'installe, des animaux qui ont des comportements de détresse, qui fuient leur habitat naturel. Et ça m'intéressait de raconter notamment ces rencontres entre les animaux et les hommes. J'ai placé du coup deux scènes dans le roman. Une première où ils font une sortie touristique, ils veulent voir absolument les grands singes, les orang-outans à Sumatra, et où ça ne se passe pas du tout comme prévu parce que ça les dérange, en fait, ces grands singes dans leur... Et qu'ils ont cette intelligence et cette proximité avec l'homme qui fait que ça devient une rencontre violente et très, très tendue. Et puis ensuite, il y a une deuxième rencontre à la fin entre les hommes et où la forêt, elle semble se rebeller par rapport à ce qu'elle subit et se révolter en rentrant dans le complexe.
Et les animaux qui
c'est les animaux.
Alors donc on est sur l'équateur, il fait très chaud, vous évoquez aussi cet aspect, et puis il y a des bestioles qui se baladent un peu partout, bon, des geckos, dans les maisons il y a beaucoup aussi d'autres bestioles. Alors vous avez été mordu par un rat?
Non.
Parce qu'il y a cette scène où...
Oui, mais ça fait partie de toutes les histoires qu'on m'a racontées et que j'ai consigné, mais c'est quelque chose qu'on m'a raconté, effectivement. L'idée que c'est toutes ces scènes qui montrent qu'on pense qu'on va soumettre, dominer la nature, et puis où elle se rebelle, elle se révolte.
On peut parler peut-être de la langue aussi, parce qu'on dans le livre, on a le son, on a les odeurs, on a cette moiteur du pays aussi, et il y a toute une partie sur la langue avec le Bahasa. Et comment tu t'es documenté? Moi, j'ai beaucoup aimé la partie où tu expliquais le pluriel des mots là-bas, quand on avait par exemple le mot fleur qui était bunga, et pour nommer le fleur au pluriel, on répète le mot, donc bunga bunga.
Qui
fait fleur au pluriel, c'est intéressant en fait.
Oui, c'était intéressant. Alors il y avait vraiment une double volonté avec ces pages sur la langue. Alors il y avait une volonté poétique, vraiment, parce que j'avais envie qu'on entende toute la poésie de cette langue. C'était très important, mais il y avait aussi une volonté politique derrière, parce que cette phrase qu'on entend dans le texte prononcée par un expatrié qui dit c'est facile à apprendre, il parle petit nègre, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu sur place, parce que l'idée c'est que c'est une langue qui a été créée pour unifier donc tout cet archipel de milliers d'îles, sauf que ça masque une réalité littéraire et poétique évidente, bien sûr. Et donc moi, j'avais envie de faire entendre cette langue, justement pour prendre à contre-pied cette parole extrêmement violente des expatriés qui méprisent, bien sûr, le petit nègre, comme ils l'appellent, du Bahasa.
Alors je vous propose une petite pause musicale et ensuite on va parler de Cassandre, qui est quand même le personnage de ce roman. Thank you. Eh oui, vous écoutez PFM, une musique plutôt rare sur le 99.9. Nous recevons Camille Zabka pour son roman Ne crains pas l'ombre ni les chiens errants. Alors je vous voyais transporté en écoutant cette musique, Camille Zabka, comme l'a été votre héroïne, votre protagoniste Cassandre. Alors je vous laisse présenter ce morceau.
Oui, c'est le morceau dont je parle dans le roman. Donc c'est la cantate BWV 208 de Bach, retranscrite pour piano. Et là, elle est jouée par Katia Bouniatichvili. Alors effectivement, moi, j'écoute très peu de musique quand j'écris, mais parfois quand j'ai besoin de... Je ne sais pas, c'est plus au niveau de la musicalité ou du style de mon écriture, de tendre vers de la fluidité, bah, je peux me mettre ce genre de morceau qui me transporte, effectivement. Et dans le roman, c'est Cassandre, elle rencontre Lucas quand elle arrive à Paris pour ses études. Elle est complètement bouleversée par cet homme qui vient pas du tout du même milieu social qu'elle, qui est déjà très bon pianiste à 17 ans, qui lui joue ce genre de morceau pour la séduire. Ça la séduit complètement. Et on va le voir, lui, jouer, d'ailleurs, pendant le roman. Et ce morceau va être un morceau important qui revient à plusieurs reprises dans le texte.
Voilà, alors on parle d'une femme, Johanna, il y en a peut-être deux en fin de compte. Il y a Cassandre et Cassandra avec la prononciation ch'ti dans ce roman. Et donc un personnage qui, Johanna, qui t'a touché particulièrement.
Enfin, moi je trouve même qu'il y a plusieurs femmes. C'est un livre sur les femmes, puisque cette héroïne, elle a été élevée par sa mère dans la rageoire, toute seule. Ensuite, elle est... Et puis par sa voisine, Mémé Cabé. Et puis quand elle arrive sur Java, elle va être prise sous l'aile de ces deux femmes, Pembantu. Donc c'est pour moi un roman très féminin. Et puis surtout cette figure de Cassandre qui va tout doucement... On la sent étouffée, on la sent au bord de l'explosion et on va découvrir un personnage très fort. Est-ce que tu peux parler de sa personnalité ?
Oui, alors on comprend peu à peu que Cassandre, elle a renoncé à une part d'elle-même en choisissant de vivre avec Lucas. Elle renonce, elle veut plus s'appeler Cassandra, elle s'appelle Cassandre, elle change son prénom, au niveau d'identité, c'est assez fort.
Avec quand même l'aspect important de la prononciation.
De la prononciation, effectivement.
Cassandra, la ch'ti, Paris, oui. À Paris, c'est un peu compliqué.
La peur qu'on entende, le milieu social, la honte, en fait, de son milieu social d'origine, la gêne par rapport à l'attitude de sa mère aussi, qui est une femme très libre, qui l'a élevée seule et qui l'élève de manière pas très conformiste. Et Cassandre, elle se fait un peu happer par les lumières, les illusions du monde bourgeois que lui propose Lucas, cette expatriation, ce voyage au loin. Et en fait, peu à peu, face à la violence de ce qu'elle va vivre là-bas, que ce soit l'accouchement de son premier enfant et puis l'homme qu'elle découvre, Lucas, qu'elle découvre là-bas, violent, qui se complaît lui parfaitement dans son rôle d'expatrié, finalement, elle va renouer peu à peu avec l'enfant un peu sauvageonne, très proche de la nature, beaucoup plus intuitive qu'elle était quand elle était enfant.
Elle est aidée en cela parce que les autochtones l'appellent Cassandra. C'est, oui. Voilà, elle, spontanément.
Oui, absolument.
Et, donc, et en fin de compte, je disais deux femmes, Cassandra, Cassandre, mais aussi deux mondes. Donc son monde d'origine, ça a été dit, milieu modeste, sa mère est aide à domicile sur le bassin minier. Et puis, donc, effectivement, le monde de la bourgeoisie qu'elle rencontre avec son mari. Et quand elle arrive en Indonésie, elle retrouve, en fin de compte, ces deux mondes, et elle se sent sans doute même plus proche peut-être des Pembantu, de ces personnes là qui travaillent à son service. Elle revoit sa mère quelque part peut-être.
Oui, bien sûr, oui. Elle dit que quand elle fait des soirées avec les expatriés, elle se sent transparente, elle sait jamais trop quand prendre la parole. Au début, elle est assez fascinée. Elle a l'impression de se retrouver avec des aventuriers, des explorateurs, alors qu'en fait, ils ont une vie extrêmement conformiste d'expatriés à travers le monde. Et puis, peu à peu, elle va s'écouter davantage, en fait, aidée par Cathy, notamment, Sapem Bantu, et puis par la rencontre avec Amu. Et elle va... Elle va retrouver et reconsidérer avec beaucoup plus de bienveillance le milieu dont elle vient et puis celle qu'elle était.
Ouais, il y a une histoire d'amour aussi,
c'est ça.
Johanna.
Ouais, ouais. Il y a une perplexité dans les sentiments et on sent qu'elle va se libérer grâce à Mou. Moi, il y a une jolie phrase pour définir ce monsieur qui était finalement garde forestier et qu'elle va rencontrer.
Un Indonésien.
Tu parles de son odeur de terre remuée, de lianes et de fleurs de caféier. Tu le décris tout le temps comme ça, avec un rapport à la nature qui est très fort. Donc c'est l'homme au couda, le cheval. Est-ce que tu peux parler de cette irruption des sentiments, de la sensualité aussi beaucoup entre eux?
Oui, effectivement, très vite, en discutant avec l'éditrice, on s'est dit que voilà, c'était pas forcément une histoire d'amour. Enfin, c'était vraiment une rencontre dans le texte que j'avais envie de raconter, qui allait pas forcément définir le personnage ou la faire changer de voie. En tout cas, il va l'aider, lui, hein, à décider qu'elle veut fuir et quelle vie elle veut vraiment avoir. Mais j'avais envie de raconter cette rencontre, effectivement, du côté de la sensualité. Alors là, c'est parce que j'aime bien que mes textes fassent écho à d'autres textes de la littérature. Et là, effectivement, j'avais relu L'amant de Lady Chatterley l'écriture du texte. Et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était effectivement tout ce que le personnage de Constance va s'autoriser, va découvrir en termes de sensualité, etc. Mais aussi tout l'arrière-plan social que j'avais pas du tout vu quand j'avais lu ce texte adolescente. Et en fait, il y a une intrication entre les deux plans, hein, entre cette rencontre entre Constance et un garde forestier et derrière tout ce que ça veut dire en termes de classe sociale. Et moi, j'avais envie de travailler là-dessus avec ce personnage d'Amou qui va... En fait, Cassandre, elle apprend avec lui à considérer l'autre. C'est-à-dire qu'elle arrive dans cette histoire avec plein de préjugés. Elle pense que... par exemple, il est peut-être un peu violent parce qu'il vit dans la nature. Elle se rend compte qu'en fait, il est végétarien, qu'il a un respect immense envers les plantes, envers les animaux. Et donc, elle apprend avec lui ce que tout voyage devrait nous apprendre, c'est-à-dire vraiment se défaire des préjugés, ce qui est très difficile, et puis apprendre à considérer l'autre. Et ils vivent quelque chose qui n'est pas du tout... passionnel, en fait. C'est très calme, c'est très doux, et j'avais envie de raconter ça aussi.
C'est naturel, peut-être. Il y a quand même de la passion, mais une passion naturelle. On se pose pas de questions.
Ouais.
Et...
C'est une autre façon de considérer la relation amoureuse que donne pas forcément toujours la littérature, en fait. Je veux dire, raconter l'histoire d'amour ou l'histoire de rencontre comme ça, c'était aussi prendre à contre-pied ce qu'on nous dit d'une relation amoureuse dans les livres habituellement.
Oui, sur le rapport aux animaux, il y a une scène avec ses poules. Hein. Donc, il prend une poule, il prend la tête d'une poule. Et donc, Cassandre, elle se dit, bon, ça y est, il va lui couper la tête pour lui préparer un poulet. Mais non, il prend simplement la poule pour regarder s'il y a des poules, des pouliers, etc. Et c'est vrai que, c'est fort. Et on pense forcément, Camille Sapka, à l'amant de Lady Chatterley. Hein. C'est complètement réussi, hein, personnellement, je trouve. Il y a beaucoup de références littéraires aussi dans votre livre. Et donc, évidemment aussi, parce que donc, vous êtes allé en Indonésie, vous avez lu Ananta Tuer, hein, le grand écrivain indonésien. Et donc, c'est important aussi de glisser un peu toutes ces références, donner aussi envie de lire d'autres choses, finalement, au lecteur.
Oui, bien sûr. C'est donner envie de lire d'autres choses. Et puis, surtout, c'est montrer, enfin, moi je pense vraiment que les livres ils s'écrivent en écho les uns avec les autres. Et voilà, moi ça c'est vraiment important dans mon écriture. J'ai besoin de montrer que mon héroïne elle arrive en Asie en ayant lu des livres sur l'Asie. Alors c'est intéressant parce que du coup, son voyage c'est une forme de déconstruction aussi, hein, d'une image un peu orientaliste de l'Asie, mais que c'est aussi une façon de connaître le monde, d'arriver avec dans sa valise Duras, l'éloge de l'ombre, je crois qu'il y a la nocturne indien aussi de Tabouki. Oui, c'est...
Il y a les huit montagnes aussi.
Il y a les huit montagnes.
Qui, moi, pour moi, est un très très bon livre, plus contemporain. Mais
oui.
Voilà.
C'est un livre que j'adore et je me suis rendu compte en faisant des recherches sur la région de Magellan dont je voulais parler, que la ville de Magellan était entourée de huit volcans. Donc c'est une façon
Donc on est au centre de l'île de Java, hein, pas très loin de là, la ville de Jakarta, qui est une ville universitaire un peu, voilà, et pas très loin non plus de sites vraiment très très importants.
Oui, Prambanan, Borobudur.
Borobudur, là, donc, ouais. Vous citez, vous donnez deux extraits en exergue de votre livre, de deux romans, et deux auteurs, deux autrices. Donc, qui doivent être importantes pour vous, Arundhati Roy et Marguerite Yourcenar. Un mot peut-être là sur le choix de ces citations.
Peut-être notamment la phrase, ouais, puisque tu de Arundhati Roy. Moi, c'est une phrase qui m'a marquée dans le livre où elle dit j'ai 30 ans.
C'est un âge pour vivre, un âge pour mourir. Oui. Alors ça, c'est une phrase. En plus, j'ai mis du temps à la retrouver parce que c'est une phrase qui m'avait beaucoup marquée à la lecture du Dieu des petits riens, qui est vraiment un roman extraordinaire qui se passe en Inde, sur l'histoire d'amour. Je l'ai lu il y a longtemps, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais entre une femme qui s'appelle Amou, justement, et un intouchable que ses enfants adorent, enfin, qui passe beaucoup de temps à jouer avec les enfants d'Amou. Et bon, ça se finit. C'est vraiment un texte tragique et très engagé, hein, comme tous les romans d'Arundhati Roy sur les relations de classe en Inde. Et il y a cette phrase donc du personnage principal d'Amou qui a une trentaine d'années et qui moi me trottait vraiment dans la tête au moment de l'écriture du livre. Donc je me suis dit je vais la faire mienne un petit peu, et puis rendre hommage à cette grande autrice indienne en mettant aussi une citation au début du texte.
Marguerite
Yourcenar. Alors moi, j'ai une formation très classique, hein, j'ai fait des études de lettres, et ça, c'est vraiment une de mes autrices préférées. Je trouve que c'est une écriture incomparable, et puis un propos sur l'être humain, sur l'intériorité, l'intimité humaine qui est toujours d'une justesse bouleversante et dit avec beaucoup de poésie. Et ouais, c'est quelqu'un de très important pour moi.
Et donc la citation débute en un sens, tout était magie. C'est Cassandra et Amous, il y a aussi de la magie, hein, sans doute, dans leur rencontre. Alors, Johanna, peut-être pour conclure, un mot aussi sur l'écriture et la construction de ce livre très, très subtil, hein, beaucoup d'aller-retour, hein, comme si, en fin de compte, on ne sait jamais si on prend la bonne décision.
Oui, enfin, du coup, je réponds.
Hein. Ouais.
alors, effectivement, c'est intéressant parce que je ne voulais pas du tout raconter l'histoire d'une femme exemplaire qui prend son enfant sous le bras, qui fait un acte courageux. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est ce que j'ai essayé de montrer avec ces allers-retours, c'est vraiment tous les moments de trouble, de doute, et toutes ces directions qu'on croit prendre et qu'on croit être les meilleures à un moment donné de notre vie et sur lesquelles on va revenir. Enfin, voilà, c'est important pour moi de raconter la vulnérabilité, les moments où tout semble vaciller, où ça bascule. Et donc, cette construction en flashback, ça permet de montrer ça, de recomposer peu à peu le puzzle d'une vie, mais sans tout réussir à expliquer, tout réussir à dire non plus.
En tout cas, on est happé par ce livre, Johanna.
Oui, moi j'en suis sortie comme le précédent d'ailleurs, vraiment tout ému, ça se lit très rapidement. Et j'ai juste envie de lire le prochain d'ailleurs.
Ah, des infos par rapport à ça?
Non, pas trop d'infos pour l'instant. Je suis dans une phase où j'écris pas beaucoup là, mais ça va revenir.
Voilà, moi, je me suis demandé aussi si tu écrivais aussi ou avais des idées pour écrire pour la jeunesse.
Bah, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Et j'ai réfléchi à quelques scénarios d'albums jeunesse. Après, c'est compliqué, mais j'aimerais vraiment beaucoup. Plus en plus, en fait, me lancer dans ce type de projet.
Oui, moi, en te lisant, je t'imagine vraiment bien, même pour des albums chez Rue du Monde, enfin, quelque chose comme ça. Voilà, ouais, en tout cas, moi, je t'attends là-dessus.
D'accord, merci beaucoup.
Alors, le Salon du Livre d'Arras, du 1er mai, c'est un salon du livre d'expression populaire et critique sociale. Ça vous parle, Camille Zabka?
Ah bah oui, bien sûr.
Donc, vous considérez que ce dernier roman, là, Ne craint pas l'ombre ni les chiens errants, on est dans l'expression populaire et critique sociale?
Oui, bah, alors, en tout cas, moi, ce qui est important, c'est que j'écris toujours avec l'idée d'une... Enfin, en tout cas, avec une colère, quelque chose à dénoncer, quelque chose à dire sur le monde, ça c'est... C'est vraiment important pour moi, mais c'est vrai que le roman après, et ça je ne m'attendais pas du tout à ce que ce roman-là m'emmène sur ces territoires-là, en racontant la vie de mes personnages, ça donne, ça étoffe et ça apporte d'autres choses. Mais au départ, il y avait quand même vraiment moi cette volonté de raconter ce que c'est que l'expatriation, cette façon vraiment de dominer le monde, de s'approprier le monde. De l'occidental.
Expatriation dans les deux sens, parce que vous racontez aussi le parcours de la Pembentu qui accompagne Cassandre, qui est une femme indonésienne qui est partie, qui a quitté son pays pour aller travailler dans les pays du Golfe pendant 4 ans ou 5 ans, où là, elle n'a pas eu une seule journée de congé, etc. Donc, ça fonctionne dans les deux sens. Et c'est, en fin de compte, bon, moi, je suis convaincu qu'on est dans l'expression populaire et la critique sociale, parce qu'il y a... Voilà, c'est un livre qui parle de son temps.
C'est très subtilement dit, en fait, dans le livre.
Oui. Et d'ailleurs, le texte que j'ai écrit pour le Festival Colère du Présent... Ça raconte la venue de Cathy en France quand elle est invitée. En fait, Cathy, elle a vraiment existé. Moi, je suis tombée sur une nounou pour ma fille en Indonésie qui était extraordinaire. Et je m'étais toujours dit que j'aimerais qu'elle soit un personnage de roman. Et quand je suis rentrée en France, on l'a invitée à venir nous voir parce qu'elle avait dit que c'était son rêve. Mais c'était très particulier. Et j'ai raconté aussi cette ambiguïté-là. De ce moment où elle est venue en France et on comprenait plus trop pourquoi on l'avait invitée, mais on voyait qu'elle était très contente. Mais nous, de notre côté, il y avait probablement l'envie de se racheter, en fait, de l'avoir eu, d'avoir été ses patrons, parce que c'est très particulier. Donc j'ai essayé de raconter ça dans un texte que j'ai écrit et qui sera, j'imagine, publié sur le site.
Au niveau du salon, il y a une revue qui va être éditée et puis il y a aussi tout un programme en ligne, puisque malheureusement il ne peut pas y avoir de salon classique en présentiel, et donc avec des vidéos, des captations vidéo, des enregistrements, et donc on va retrouver effectivement ce texte sur le site de Colère du Présent et sur le site Nos Mondes Sauvages, dédié à cette édition du salon. Johanna, donc on ne peut que recommander la lecture de...
De ces deux romans d'ailleurs, le premier et le deuxième.
De ces deux romans.
Merci beaucoup.
Encore merci. Johanna, et puis Camille Zabka, on va dire Thierry Makassi.
Oui, merci. Voilà. Merci pour votre invitation.
Voilà.
Merci.
Je vous propose de nous quitter avec une danseuse de Java, et c'est Arnaud qui interprète cette chanson.
Mes bouquins de Nietzsche aussi. Je me quitte galope du pas comme danse de Java. Elle me quitte au petit pas comme danse de Java. Je te donne mes victoires de la musique et ma prosodon électrique. Tu peux les mettre où le soleil. Jamais plus, jamais plus. Et on me quitte à petit pas comme danse de Java. Et on me quitte à petit pas comme danse de Java. Je te jure sur mes deux bonbons, je veux pleurer.